Club Manche, c'est 100% sport sur France Bleu Cotentin jusqu'à 19h.
L'heure pour moi de vous laisser en bonne compagnie avec Benoît Martin pour le Club Manche 100% Sport.
Bonsoir, merci. Aurore, bonsoir, très bonne soirée à vous et bonsoir à tous et bienvenue dans ce Club Manche 100% Sport avec un programme un peu chamboulé ce soir à la faveur de la venue d'un invité prestigieux, un ancien international français. Oui, sa spécialité, c'était le coup de sifflet. C'est l'ex-arbitre international originaire d'Avranches, Freddy Fautrel, qui est avec nous. Bonsoir.
Bonsoir.
Avec vous d'ici un petit quart d'heure, on se penchera sur les enjeux autour de l'arbitrage aujourd'hui dans le foot professionnel, mais aussi amateur ici dans la région Normandie. Avant cela, on va revenir sur le flop du week-end, on peut le dire comme ça, la défaite improbable des Mauves de la JS Cherbourg Handball en Pro League vendredi contre Nancy. Ne jamais vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. On en a eu une illustration malheureuse lors de cette rencontre. Et puis ce soir, on va vous expliquer comment décrocher l'un des tout derniers dossards disponibles pour aller courir le marathon de Paris. Ce sera le 7 avril prochain. France Bleu Cotentin a un dossard à mettre en jeu. Je vous explique dans 10 minutes comment vous allez pouvoir tenter de le remporter.
Club Manche en mode supporter, tous derrière les Mauves.
Et pour m'accompagner ce soir dans ce Club Manche 100% Sport, mes collègues de la presse sportive locale, à la presse de la Manche, Aurélien Ray, et à Ouest France, Pierre Machado. Bonsoir messieurs.
Salut les amis.
Bonsoir tout le monde.
Et puis évidemment, dès qu'on parle de handball, notre officiel, notre speaker officiel et spécialiste du hand à Cherbourg, Antoine Héron, bonsoir.
Bonsoir à tous.
Allez, il fallait bien que ça arrive. La belle série de succès de la JS Cherbourg Handball en Pro League a été stoppée vendredi soir à domicile par Nancy. Une défaite 26-28 qui fait un peu mal au moral parce que vu la physionomie du match, cette rencontre, elle ne pouvait pas échapper aux Mauves qui menaient de 4 buts à 7 minutes de la fin du match et qui n'ont plus marqué ensuite, encaissant 6 buts des visiteurs et une nouvelle défaite qui ne fait pas les affaires comptables des Cherbourgeois. Antoine Héron, derrière le micro de speaker lors de ce match vendredi, j'imagine que vous avez eu du mal à ne pas vous étrangler en fin de match.
Ah oui, ces 7 minutes 38 ont été très 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 longues et pour ne rien vous cacher, la nuit a été très mauvaise derrière. Oui, un mauvais scénario, un mauvais cauchemar qui a commencé à la 45e et puis qui nous a envoyé à ce 26-28 après un 12-4 pour Nancy.
Oui. Alors on va être cash, est-ce une faute professionnelle d'enregistrer une défaite dans ce contexte, dans ces conditions-là, Pierre Machado?
Ah bah tout d'abord j'ai envie de rendre à César ce qui appartient à César pour avoir parlé avec Antoine avant le début du match. Antoine il était assez inquiet et il s'attendait malheureusement à ce que ça ne sourie pas forcément à la JSC, même si à la 47e minute tout le monde imaginait bien sûr une victoire de Cherbourg. Alors faute professionnelle je sais pas parce que ça arrive malheureusement dans le hand de telle remontada. Ça fait mauvais genre, surtout que la 5e victoire consécutive tendait les bras à la JSC. Alors, faute professionnelle, je sais pas. Parce que ils peuvent aussi retourner le scénario dans un autre sens lors d'un prochain match. Après, c'est clair que c'est très embarrassant, on va dire. C'est très, très, très embarrassant.
Et oui, on va y revenir sur ce classement et ces deux points qui manquent finalement ce soir à la JS Cherbourg. Aurélien Ray, de votre point de vue, faute professionnelle, c'est pas la première fois d'ailleurs, vous le soulignez dans votre journal il y a quelques jours, pendant le week-end.
Oui, effectivement, ça fait 4 fois, alors pas consécutivement, mais 4 fois sur des matchs à domicile que la JS Cherbourg rate son money time, rate ses dernières minutes. Maintenant, parler de faute professionnelle, bon, c'est une expression que je n'aime pas beaucoup, surtout en matière de sport, hein, je pense qu'il faut relativiser. Effectivement, comme le disait Pierre, ça, c'est le genre de scénario qui peut arriver dans un sens comme dans l'autre. Donc, on va pas non plus brûler ce qu'on a aimé ces dernières semaines et... On a toujours confiance en la JS Cherbourg.
À part des nœuds dans la tête, hein, la peur de bien faire à la fin d'un match, qu'est-ce qui objectivement explique la défaite sur cette rencontre, Antoine Héron?
On est tombé sur un Kalim Zahav qui nous a
le gardien la pièce, hein. De Nancy, ouais.
Donc le gardien qui était donc à Cherbourg l'année dernière, qui nous a rentré dans la tête, dans le cerveau en fin de match. Moi, je suis un petit peu plus désagréable. Je suis désolé, mais c'est 7 minutes 38. Je pense que les joueurs effectivement ont été sans réussite. En tout cas, il a manqué quelque chose. Je vais pointer un peu plus le staff. Puisque dans ces 7 minutes 38, la JS Cherbourg avait encore son troisième temps mort. Et ce troisième temps mort n'a pas été posé durant cette dernière période. Et peut-être, je dis bien peut-être, et on ne le saura jamais, mais peut-être qu'avec un temps mort posé qu'on avait, on aurait pu, entre guillemets, contrecarrer la remontada de Nancy.
Ouais, alors les Cherbourgeois, à la fin du match, hein, dans leur réaction face à la presse, évoquaient notamment des situations de 7 contre 6, hein, puisque Nancy avait décidé de jouer sans gardien pour être en surnombre, qui ont été mal gérées, des difficultés à gérer ces situations-là. Est-ce que ça peut expliquer, ou est-ce que c'est anecdotique finalement, le résultat de ce match du côté de Ouest-France, Pierre Machado, qu'en pensez-vous?
Ah bah, y a plusieurs choses qui peuvent expliquer de toute façon cette défaite. Alors on va pas reprocher au staff de Nancy d'avoir tenté un coup, et si la JSC n'a pas su y répondre, le problème vient plutôt du côté de Cherbourg. Et puis pour continuer sur ce que dit Antoine, en effet, au niveau des rotations en toute fin de match, alors est-ce qu'il y a eu un peu de prétention ou un peu une JSC un peu trop sûre d'elle? Mais on a vu des joueurs, on va dire très jeunes, on pointera personne, mais qui se sont retrouvés à finalement face à Kalim Zaaf, qui était énorme, à tenter des shoots pour tuer le match. Et évidemment, il manque un petit peu de maturité, ils sont plantés, on peut pas leur en vouloir. Mais est-ce que le match était vraiment plié plus vite que prévu? La JSC le pensait, et en fait dans les faits, il y a eu deux tirs notamment ratés dans les dernières minutes qui ont été fatales à la JSC, quoi.
Ouais. On retient cette fin de match un petit peu particulière, mais c'est vrai, vous regarderez que tout n'a pas été parfait du début à la fin du match, hein. Loin de là.
Oui, effectivement, c'était loin d'être le meilleur match de la JS Cherbourg là, c'est sur les dernières semaines, hein, même quand les Mauves étaient devant de 5-6 buts, on les a jamais sentis très très sereins, notamment offensivement. Il y a eu pas mal de ratés, pas mal de balles perdues, et c'est vrai que Nicolas Gauthier, avec ses 17 arrêts, a longtemps été l'arbre qui cachait la forêt, on va dire. Donc finalement, cette défaite sur l'ensemble du match, malgré le scénario, on va dire qu'elle est peut-être pas si surprenante que ça.
Alors messieurs, quand on regarde le classement ce soir, Cherbourg est toujours cinquième, mais talonné désormais par Frontignan, qui a gagné de son côté et qui a un match de moins que les Cherbourgeois. Est-ce qu'on peut dire qu'on a grillé un joker dans la course au play-off, Antoine Héron?
Eh bien, on disait qu'effectivement, après Célestin, on avait gagné un joker. Eh bien, on l'a posé directement. Voilà, on n'a plus de joker. Oui, et très clairement, c'est une victoire embarrassante, mais elle n'est pas rédhibitoire. Donc,
une défaite embarrassante plutôt, hein, je pense, que vous vouliez dire, Antoine.
Oui, pardon, excusez-moi, une défaite embarrassante, mais elle n'est pas rédhibitoire. Maintenant, on a encore notre destin en main.
Ouais. Aurélien Rey, vous en pensez quoi, effectivement, de ce classement qui, évidemment, va se resserrer sur cette cinquième place à laquelle on souhaite que les Cherbourgeois s'accrochent?
Mais c'est vrai que là, en cas de victoire, et on pensait tous qu'elle aurait lieu, hein, cette victoire entre une JS Cherbourg en pleine confiance et un Nancy en pleine crise, et vu le scénario, on s'attendait à une victoire, et la JS Cherbourg aurait quasiment éliminé Nancy de la course au play-off, et finalement, il n'y aurait plus qu'une équipe à éliminer. Là, ça relance tout. Maintenant, la JSC a toujours son destin en main. 22 points, 3 points de plus que le 7e, même si Billard a un match en moins. Bon, les Mauves sont encore dans une position plutôt confortable quand même.
Ouais, je vais vous demander aussi votre avis, Pierre Machado, et je rajoute au passage, et vous demander de vous projeter aussi là-dessus, sur ces 15 jours à venir, là, puisqu'il n'y a pas de match ce week-end, il y a une petite coupure avant la réception d'Istres. Est-ce que ça peut faire du bien aussi après cette désillusion?
Alors sur le classement, pour moi, oui, clairement c'est un joker de grille. Alors je sais pas s'il faut revenir sur les 4 matchs, on va dire perdus, ou le match nul a été conseillé dans les derniers instants, parce que quand c'est des matchs nuls face à Tremblay par exemple cette saison à domicile, je pense qu'il n'y a pas de honte vu le niveau de Tremblay, mais c'est clairement un joker de grillé, et pour moi les 3 points peuvent perdus face à Angers et ce week-end peuvent coûter très cher à la fin. Et par rapport aux 2 semaines à venir, faut digérer. Alors on sait que Edouard Fernandez-Roura, l'entraîneur de la JSC, le dit souvent, même tout le temps, que dès le lundi ils se projettent sur le match suivant, donc là ils ont quelques jours pour digérer, pas trop non plus, il me semble qu'ils reprennent l'entraînement dès ce mercredi, donc faut passer vite à autre chose. Par contre, là il y aura peut-être les mains qui tremblent un petit peu, parce qu'on se dit que s'il y a une défaite face à Istres, qui est aussi très très solide comme équipe cette année, troisième au classement, au niveau du mental, ça peut vite vriller, hein.
Effectivement, on sait à quoi s'attendre face à Istres, un gros combat en perspective. Antoine Héron, votre sentiment là-dessus, comment aborder dans les meilleures conditions possibles cette rencontre?
Alors effectivement, Istres est un match important, mais qui pourrait, je pense, nous donner un joker. Gagner contre Istres nous donnerait un joker, perdre ne serait pas illogique. Les confrontations directes contre Billière en avril et Frontignan au mois de mai seront, elles, très importantes.
Ouais, ouais.
Donc...
Merci beaucoup.
Je voulais souligner quand même que la JS Cherbourg a quand même été très déséquilibrée par l'absence de André Goujon-Bellevue hein, ce week-end. Et son pendant sur l'arrière gaucher, on a eu un problème de base arrière quand même.
Ouais, qui sera de retour.
Et concernant André ne risque pas d'être bonne visiblement.
Ouais, on suivra ça effectivement avec cette absence qui a pesé. Antoine Héron, vous restez avec nous parce qu'on va parler arbitrage dans un instant dans le secteur du football, mais je sais que vous avez de l'appétence pour ce rôle d'arbitre que vous pratiquez, vous, avec le ballon à la main, comme on dit. Pierre Machado, vous restez également. Aurélien Rey, on va vous libérer, je crois, mais qu'est-ce qu'on retrouve dans la presse de la Manche, demain?
Alors, on reviendra sur le troisième tour de la Coupe de Normandie de football avec quelques surprises et un zoom sur Sainte-Marie-du-Mont. On reviendra également sur les finales du tournoi de tennis de Tours-la-Ville.
Merci beaucoup, Aurélien Rey. À très vite dans le Club Manche 100% Sport. Bonne semaine à vous.
Les débats du Club Manche, chaque lundi sur France Bleu Cotentin.
Je le disais dans un instant, dans la seconde partie du Club Manche 100% Sport, notre invité sera Freddy Fautrel, ex-arbitre international, aujourd'hui conseiller technique arbitrage à la Ligue de foot de Normandie. L'Avanchiné est dans notre studio, mais avant cela, France Bleu Cotentin lance ce soir un concours pour remporter un dossard pour courir le prochain marathon de Paris. N'hésitez pas, rendez-vous dès maintenant sur notre site francebleu.fr pour vous inscrire et participer au tirage au sort. Le vainqueur du dossard sera désigné la semaine prochaine, ici même. Je vous le précise, les inscriptions pour ce marathon, elles sont closes. C'est donc la dernière chance pour vous d'y participer. Ne laissez pas passer cette chance. Freddy Fautrel, je vous redis bonsoir et je vous demande si vous, ça vous dirait un petit marathon.
J'en ai déjà fait un. Ouais. Malheureusement, le temps n'était pas à la hauteur de mes espérances. Et peut-être qu'un jour, j'y reviendrai.
Mais on court beaucoup dans un match quand on est arbitre. Je ne sais pas si on détermine à peu près le nombre de kilomètres qu'on fait.
On fait entre 10 et 12 kilomètres sur un match de Ligue 1.
Même pas un demi-marathon. Alors.
Même pas un demi-marathon.
Bon. Allez, c'est d'arbitrage qu'on va parler avec vous ce soir. On est ravis de vous accueillir dans le Club Manche 100% Sport. On marque juste une petite pause musicale avec Les Enfoirés. Jusqu'au dernier, c'est le nom de leur dernier titre.
Si tu entends nos voix, c'est qu'on est encore là, à compter les saisons. Tu reviens comme l'hiver, nous, on te voudrait pépère au chaud dans ta maison.
Si c'est vrai qu'on s'amuse, les années nous accusent d'une énième chanson.
35 ans déjà, qu'aujourd'hui plus le droit d'avoir faim, d'avoir froid.
On a tout essayé, ou presque, ou presque encore. Allez,
alors on va crier qu'on reste.
Nous on reste jusqu'au dernier.
On a tout essayé, on reste.
Nous on reste
jusqu'à la fin.
Qu'on passe à table, on accepte l'inacceptable, qu'un de nous peut manquer.
De chaleur et d'amour, mais qui volera sans secours dans la nuit de janvier.
Si c'est vrai qu'on s'amuse, les années nous accusent d'une énième chanson.
35 ans déjà, qu'aujourd'hui plus le droit d'avoir faim, d'avoir froid.
On a tout essayé, ou presque,
presque encore.
Ou presque encore. Allez,
alors on va crier qu'on reste.
Nous on reste jusqu'au dernier.
On va tout essayer, on reste.
Nous on reste
jusqu'à la fin.
Jusqu'au dernier, c'était Les Enfoirés sur France Bleu Cotentin.
18h30, 19h, vous écoutez Club Manche sur France Bleu Cotentin.
Il est donc avec nous pour parler arbitrage. On est ravis d'accueillir Freddy Fautrel, Avranchiné, ex-arbitre international, qui a pris sa retraite sur les terrains en 2016. Ça fait bientôt 8 ans déjà, et désormais conseiller technique chargé d'arbitrage à la Ligue de Normandie de football. Ça vous fait sourire quand on dit déjà?
Oui, parce que le temps passe vite, voire même très vite.
Et oui. Question pour débuter. D'ailleurs, est-ce que le terrain, ça vous manque pas un peu de temps en temps?
Alors je dirais oui et non, oui parce que j'y prenais un plaisir fou à arbitrer et à côtoyer tous ces stars. Et non parce que je suis encore je suis en charge de l'arbitrage et c'est ma passion depuis que j'ai commencé, donc ça me permet de côtoyer encore l'arbitrage et le terrain.
Vous êtes toujours dans ce milieu effectivement, mais est-ce que comme un sportif de haut niveau, parce que quand on est arbitre à ce niveau-là, on est aussi sportif de haut niveau, on doit faire le deuil de sa carrière quand on arrête?
On doit s'y préparer. Moi, j'ai eu cette chance de préparer ma fin de carrière, puisque j'avais été sollicité par la Fédération française de l'époque pour intégrer la commission de l'arbitrage. Donc, j'avais préparé cette fin et puis une forme de continuité. Hein, comme un joueur passe coach, moi, j'intégrais la Fédération française, donc j'étais préparé à cette fin.
Bon, allez, on va parler des enjeux sur lesquels vous travaillez à l'échelle de la Ligue. Mais d'abord, on aimerait vous entendre sur l'arbitrage dans l'actualité, parce qu'il fait souvent l'actualité, pas plus tard que ce week-end par exemple, le coup de sang des dirigeants nantais à la fin du match entre l'OM et Nantes, le sentiment qu'ils avaient d'avoir été privés de deux pénaltys possibles, faute d'un recours à la VAR. La VAR, on le rappelle, hein, c'est l'arbitrage vidéo. Finalement, ça a créé aussi des déceptions, on s'aperçoit cette VAR.
Eh bien, à l'époque, lorsqu'il a été mis en place, j'ai eu la chance de travailler sur cette mise en place en France. Je travaillais avec Bertrand Layec et on s'était dit l'assistance vidéo, ça allait régler beaucoup de problèmes, mais ça allait en créer d'autres, voire même plus importants, avec des polémiques plus importantes. Tout simplement parce que le protocole prévu par l'assistance vidéo, c'est on revient sur une décision initiale clairement erronée. Et déjà, de par la même, t'as cette définition, qu'est-ce qu'une erreur clairement? On ne sait pas. Voilà, faut la définir. Donc, on essaye de. Je pense que les arbitres français travaillent sur qu'est-ce qu'une erreur claire et évidente avec des critères, mais les critères ne sont pas forcément les mêmes pour tous.
Donc, soyons clairs, ça vous plaît ou pas la VAR?
On ne peut pas être contre, puisque ça enlève bien des injustices. Je crois que à ce jour, il y a plus de 75% des décisions qui sont corrigées. Donc c'est 75% d'erreurs en moins. Alors il faut travailler sur ces 25%. Je dis toujours, le football a plus de 150 ans d'existence. Il n'y a même pas 10 ans d'existence d'assistance vidéo. Donc ça prendra du temps et les règles évoluent. Et je pense que l'assistance vidéo évoluera également.
Alors à West France, c'est Pierre Machado qui vous écoute évidemment avec attention et qui a sûrement, je suppose, une question à vous poser, Freddy Fautrel.
Ouais, bonsoir Freddy.
Bonsoir Pierre.
Moi j'avais une autre question sur l'aspect national et ce dont on parle de plus en plus souvent malheureusement dans nos colonnes au niveau national, à Ouest France et ailleurs, c'est aussi malheureusement le comportement vis-à-vis des arbitres, que ce soit les joueurs, les supporters ou même les parents des enfants qui jouent en catégorie jeune. On dit souvent que le foot reflète la société et que la société est de plus en plus violente. Quel est ton regard sur cette situation où on a l'impression que l'arbitre malheureusement est surtout la cible des supporters qui ne sont pas vraiment des supporters, mais de plus en plus des personnes qui sont au stade ou aux abords de la pelouse?
Remettre la faute sur l'arbitrage, c'est le recours facile. Là où tu as raison, Pierre, c'est qu'on voit de plus en plus de violence. On en parlera sûrement dans la deuxième partie de l'émission, notamment dans la région. Alors un petit peu moins qu'ailleurs, hein, bien évidemment. On est quand même une ligue relativement tranquille par rapport à la violence, il faut reconnaître. Mais le comportement, notamment des parents, évolue. Et il évolue pas dans le bon sens. Les éducateurs également sur les bancs. Je crois que les mots ont un sens. Nous avions à une époque des entraîneurs. Maintenant, on a des éducateurs. Et je pense qu'il faut que le mot éducateur prenne tout son sens.
Et est-ce qu'il faut des sanctions plus lourdes pour ceux qui, notamment parmi ceux qui entourent les joueurs, n'auraient pas le bon comportement?
Alors, je ne vais pas parler de sanctions lourdes parce que c'est pas mon rôle. Néanmoins, lorsque je compare les autres grands sports collectifs, que ce soit le rugby, le basket ou le handball dont on parlait tout à l'heure, les comportements sont totalement différents. Alors pourquoi ? C'est la preuve que c'est lié au football. Je pense qu'il doit y avoir une prise de conscience de nos dirigeants, de nos joueurs, de nos entraîneurs, de nos éducateurs, afin que le football devienne un peu plus apaisé.
Alors c'est le moment de vous faire rentrer dans le débat, Antoine Héron, en tant qu'amoureux de handball. Et je crois donc que vous continuez d'arbitrer des matchs tous les week-ends ou régulièrement. Votre sentiment sur effectivement ce qui serait peut-être propre, malheureusement, au football, là, d'avoir des supporters parfois véhéments vis-à-vis des arbitres?
Ouais, Monsieur Vourel, bonsoir. Effectivement, un plaisir de vous avoir. Par rapport à l'arbitrage, effectivement, moi j'ai le plaisir de faire de l'arbitrage depuis plus de presque 40 ans maintenant. Est-ce que c'est pas un problème de moyens des arbitres du foot? Nous, les arbitres du handball, quand des joueurs sont pas d'accord, quand des joueurs ne respectent pas le règlement, il y a des sanctions immédiates, un 2 minutes. Au rugby, quand un arbitre est contesté, il peut avancer de 10 mètres. Est-ce que les arbitres de foot n'ont pas forcément ces moyens-là? Et donc, avec les médias, on voit beaucoup d'arbitres de foot contesté, et comme le foot est très médialisé, ben les jeunes voient ce qui se passe à la télévision et font pareil.
Je partage complètement votre analyse. Je pense que les arbitres de football ont un manque de moyens législatifs ou réglementaires. Je pense aux 2 minutes, je pense au rugby avec l'avancée de 10 mètres. Voilà, nous, au football, on a notre personnalité. Et derrière, on a carton jaune et carton rouge uniquement. Je pense qu'il faudrait instaurer certaines règles. D'ailleurs, le district de l'Eure, qui est dans notre ligue, pratique déjà le carton blanc, qui est prévu par les lois du jeu. Je pense qu'on va tenter dès la saison prochaine. Je dis bien tenter, c'est un projet que nous avons sur la Ligue de Normandie. Au niveau des jeunes, peut-être mettre le carton blanc.
Ouais, c'est intéressant, ça, effectivement. Il y a d'autres endroits où ça se teste déjà, ou vous seriez précurseur en...
Alors non, on n'est pas précurseur, parce que c'est prévu dans les lois du jeu depuis 2017. Voilà, sur les arbitrages amateurs, c'est pas nouveau, mais je pense qu'il faut aller dans ce sens, notamment sur un tête préventif et éducatif.
La sonorisation des arbitres, ce qui se fait déjà au rugby, on l'entend quand on est chez soi en train de regarder un match, ce qui va être testé dès ce printemps en D1 féminine, c'est une bonne chose selon vous ?
Absolument, moi j'y suis particulièrement favorable.
Qu'est-ce que ça permettrait ?
Déjà de voir un peu plus de transparence, parce que les présidents, les joueurs, même les spectateurs ont l'impression que on est en vase fermée, qu'on se dit des choses, quand c'est caché, c'est toujours plus soumis à une forme d'analyse. Voilà, ce serait transparent, on aurait la communication entre le VAR et l'arbitre, et on aurait tous les échanges entre ces arbitres. Ça permettrait aussi de voir le comportement des joueurs, les paroles qui peuvent être dites sur le terrain, donc ça peut apporter un peu plus de calme.
Frédéric Fautrel est l'invité du Club Manche 100% Sport ce soir. On va s'intéresser dans un instant maintenant aux enjeux sur lesquels vous travaillez à votre place à la Ligue de Normandie de foot, qui rejoignent d'ailleurs un peu ceux qu'on vient d'aborder. Mais pas que, discussion que l'on poursuit dans moins d'une minute. À tout de suite.
Je vais t'aimer avec France Bleu. Face à l'immense succès depuis son lancement en 2021, la comédie musicale Phénomène repart pour une 3e tournée dans toute la France. Embarquez à bord du mythique paquebot France et vivez de Paris à New York l'histoire d'une bande d'amis au rythme des plus grands succès de Michel Sardou. Je vais t'aimer en tournée dans toute la France avec France Bleu.
Quand vous écoutez France Bleu, vous n'êtes pas n'importe où. Vous êtes chez vous. France Bleu, au cœur de nos régions, de nos villes, de nos villages. France Bleu Cotentin, ici. On parle d'ici. 18h30, 19h, vous écoutez Club Manche sur France Bleu Cotentin.
Allez, la dernière ligne droite dans ce Club Manche 100% Sport, toujours en compagnie de Frédéric Fautrel, notre invité ce soir, pour parler maintenant des actions à mener sur le terrain pour amener plus de jeunes vers l'arbitrage. C'est un enjeu dans une région comme la Normandie, dans une ligue comme celle de Normandie. Pierre Machado, sur les missions et les objectifs sur notre territoire, vous avez, j'imagine, une question à poser à Frédéric Fautrel.
Oui, Freddy, tout simplement, moi je vais partir plus sur la région, mais sur la Manche même, pour reprendre ce que vient de dire Benoît, en fait, tout simplement, quelle est la situation aujourd'hui dans la Manche? Est-ce difficile aujourd'hui dans la Manche d'attirer les jeunes et même de les former aussi, parce qu'il faut aussi des moyens derrière? Et puis, pour revenir un petit peu en écho à ce qu'on a dit en première partie, voilà, est-ce que la Manche aussi, on va dire, est un bon élève par rapport au respect des arbitres, par rapport à certains secteurs où, il me semble, du côté du Havre ou de Rouen, c'est très 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 compliqué?
Alors oui, effectivement, la Manche est plutôt un très bon élève. Voilà, on n'en recense pas de comportement très déviant sur notre département. Je rebondis sur la formation. C'est difficile de former puisque nous sommes que deux conseillers techniques sur l'ensemble de la ligue et nous avons formé plus de 350 arbitres cette année sur l'ensemble du territoire. Donc on est accompagné de bénévoles.
De la région.
Ouais, de la région. Et dans la région Normandie, on est accompagné de bénévoles, avec des bénévoles qui forment de jeunes arbitres ou des moins jeunes d'ailleurs, sur l'ensemble des cinq départements. Donc on a moyen, nous aussi, de ressources humaines.
Et ça vous permet donc, pour revenir aussi à la question de Pierre Machado, en termes de nombre d'arbitres, d'augmenter le nombre d'arbitres présents dans la région et dans la Manche?
Alors depuis 3 ans, on a la chance de pouvoir augmenter nos effectifs de façon significative, puisqu'on est passé de 1070 arbitres à presque 1300, avec un objectif en fin de saison de presque 1320, ce qui serait un record depuis l'unification de la Ligue. Donc on recrute bien, on a une problématique pour garder nos jeunes.
Pourquoi ?
La fonction, parfois les incivilités, le manque d'accompagnement. Vous savez, une formation d'arbitre, c'est 24 heures. C'est comme si vous...
24 heures seulement,
et plutôt en théorie.
Et après, on a un sifflet dans les mains.
Donc pour les jeunes, c'est compliqué. Donc peu accompagnés ou pas assez accompagnés, parce qu'il faudrait des bénévoles sur chaque jeune. D'ailleurs, on est en train de tester un nouveau dispositif dans le district de l'Orne. C'est que chaque jeune arbitre qui vient de passer sa formation initiale sera désigné dans son propre club. Il sera accompagné par son propre club, pris en charge dans son propre club, avec des gens qu'il connaît, un environnement qu'il connaît. Il sera dans un environnement apaisé. Voilà. Et après seulement, après 5 ou 6 matchs, il pourra basculer sur les matchs avec deux équipes différentes.
Pierre Machado, lève le doigt pour poser une autre question. Allez-y Pierre.
Oui, je saisis la perche que tend Freddy par rapport à ce qu'il vient de dire. Il me semble, pour dire quand même à quel point c'est compliqué aussi pour les jeunes qui sont passionnés par le foot et l'arbitrage, pour eux aussi, de vivre avec ces incivilités. Il me semble, Freddy, que depuis quelques années, il y a même des cellules psychologiques qui sont mises en place pour les jeunes arbitres qui sont cibles d'incivilités. Les week-ends, même, on en est là quand même.
Oui, on en est là. Tous les lundis, il y a une cellule d'écoute qui est mise à disposition des arbitres normands, alors jeunes et moins jeunes, hein, puisque ça ne concerne pas uniquement les jeunes. C'était une première en France qu'on a mis en place depuis maintenant 3 ans, que la Ligue de Normandie a mis en place depuis 3 ans. Et malheureusement, chaque lundi matin, on a quelques appels pour des jeunes ou des moins jeunes qui nous racontent leur déboire du week-end.
Vous avez parlé de territoires où il y a des expérimentations. L'Orne, par exemple, est-ce que la Manche va être un territoire d'expérimentation pour une mesure ou une autre dans les prochains mois?
C'est toujours difficile de mettre en place plusieurs projets à la fois. Je sais que le district de la Manche a toujours été une terre d'arbitres dont je suis issu, donc je sais qu'ils seront toujours preneurs s'il y a de nouveaux projets à mettre en place.
Bon, écoutez, on suivra ça avec attention. On sera proche de ce que vous aurez à raconter sur le sujet pour éventuellement se tenir informé de ces évolutions. Merci beaucoup, Freddy Fautra. Il y aurait encore beaucoup de choses à dire, mais on vous réinvitera une autre fois dans ce Club Manche 100% Sport. Merci, Pierre Machado. Très rapidement, on lit quoi demain dans West France?
Alors, on parle voile avec le Cherbourgeois Alexis Loison et le Grandvillais Édouard Goldberry.
Eh bien, merci à vous. Très bonne soirée. Merci également Antoine Héron. Profitez bien de ces petits jours de congé avant de reprendre le micro de speaker Salle Jaurès dans 15 jours face à Istres. Très bonne soirée
merci.
À tous.
Merci à vous.
C'est la fin de ce Club Manche.